qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur, cinquième cassette, première face, page 130. Kersak et Hélène sortirent et allèrent sous le hangar où étaient le cheval et la carriole. Kersak donna à boire à son cheval qui finissait son avoine, lui arrangea sa litière. Hélène lui apporta une botte de foin, après quoi Kersak se mit à décharger la carriole de ses provisions. Hélène reçut un bon gigot tout cuit, 3 livres de beurre, 1 kilo de sucre, 1 kilo de café, 1 kilo de chandelle, un gros fromage, une bouteille d'huile et une autre de vinaigre, un paquet d'épiceries de toutes sortes. Enfin, il retira un paquet qu'il semblait vouloir cacher. « Ceci, dit-il, ce n'est pas pour vous, ma bonne dame Hélène, c'est pour moi. »
« Ah, qu'est-ce que c'est sans indiscrétion ?»«
Voilà, c'est qu'il faut encore m'accuser d'un vilain défaut et ce n'est pas agréable. Et pourtant, il faut que je m'exécute car tout de même, quand vous verriez la chose, vous devineriez bien mon défaut. Tel que vous me voyez, Hélène, je suis un peu coquet. J'aime à être bien tenu, bien peigné, bien attaché. Et chez vous, il n'y a pas de glace. Cela m'ennuie parce qu'en arrivant, voyez-vous, le vent, la sueur, la poussière, tout ça vous ébouriffe, vous dérange. Avec ma glace, je verrai tout de suite si je suis présentable. Vous n'êtes pas fâché, n'est-ce pas ? Hélène ne répondit qu'en lui serrant les mains dans les siennes. Sa bouche resta muette, mais ses yeux exprimèrent sa reconnaissance. Elle rentra et se mit à ranger les provisions dans l'armoire que lui avait valu l'égoïsme de Kersak. Un clou, s'il vous plaît, Hélène, pour attacher la glace. Où faut-il l'accrocher ?
Elle sera bien partout où vous la mettrez, monsieur Kersak. Voici un clou.
En prenant le clou, Kersak s'aperçut qu'elle avait les yeux pleins de larmes. Pourquoi pleurez-vous, Hélène ? Pourquoi ? Je veux que vous me le disiez.
Je pleure sur votre égoïsme. Je remercie le bon Dieu de vous avoir donné un si beau défaut et je le prie de vous y récompenser dans ce monde et dans l'autre.
Oh, dans ce monde, je n'y tiens guère. Dans l'autre, je ne dis pas. Et à mon tour, je prie le bon Dieu de vous y retrouver avec mon petit Jean après ma mort.
Merci, monsieur Kersak. C'est la meilleure prière que vous puissiez faire pour moi.
C'est qu'il y a longtemps que je vous connais.
Il y a plus de 2 ans.
Et la petite, où est-elle donc ?
Elle n'est pas encore revenue de l'école. Elle va venir dîner avec nous tout à l'heure.
Elle est gentille, cette petite. Je l'aime bien.
Elle vous aime bien aussi. Rien que d'entendre parler de vous, ses yeux brillent, sa bouche sourit.
Qui entend-elle parler de moi ? Personne ne me connaît ici.
Et moi donc ? Est-ce que je puis oublier notre bienfaiteur et le protecteur de mon petit Jean ? Tout ce qui est ici vous rappelle à notre souvenir. Tout vient de votre charité, de votre bonté.
Vous pouvez bien ajouter, et de mon amitié. Je me suis attaché à votre petit Jean, que j'en suis quelquefois étonné. De Jean, cet attachement a passé à vous, et ça me fait plaisir de venir vous voir et de vous aider un peu avec ce que j'ai de trop.
Je ne suis pas une ingrate, monsieur Kersak, croyez-le bien.
Oh, je le sais bien, je le vois bien, et ça repose le cœur, voyez-vous, quand on n'a personne à aimer dans ce monde. Je veux dire, des créatures humaines. Car on a toujours le bon Dieu à aimer. Je dis donc que ça repose le cœur quand on voit une bonne et honnête femme qui vous remercie du peu qu'on fait pour elle, qui en est reconnaissante comme si c'était une belle et grande chose et qui prie pour vous et qui pense à vous et qui vous aime. C'est une grande récompense, ma bonne Hélène, trop grande pour ce que je vaux. Et que vous écrit Jean dans sa dernière lettre ?
Ils m'écrivent tous deux, monsieur Kersak. Monsieur Abel a été bien bon pour eux. En voilà encore un qui est un vrai cœur d'or, comme dit mon petit Jean.
Et Hélène raconta à Kersak tout ce que monsieur Abel avait fait et promis et comment il avait assuré à Simon un excellent mariage. Ah, peste ! Il n'y va pas de main morte, ce bon Abel. Plaise à Dieu qu'il n'ait pas son Caïn. Il va falloir que vous alliez à la noce d'ici 1 an ou 2.
Moi, monsieur, à une noce à Paris, qui ferais-je, mon Dieu? Et quelle figure y apporterais-je?
Eh bien, il faudra bien que vous y alliez. La mère doit être présente. C'est la loi.
La mère, mais pas la belle-mère, monsieur.
Comment la belle-mère?
Oui, monsieur. Je n'ai d'enfant que mon petit Jean. Quand j'ai épousé mon mari, Simon avait déjà près de 9 ans.
En voilà-t-il une belle découverte? Mais quel âge avez-vous donc?
J'ai 33 ans, monsieur. Jean a 16 ans et demi, je me suis mariée à 17 ans.
C'est donc ça que je me disais toujours, cette femme est diantrement bien conservée. Qui croirait qu'elle a un grand garçon de 24 ans? Ah, mais ce que vous me dites là me fait plaisir. Voici pourquoi. Je suis garçon, vous savez, je ne suis pas marié. J'ai besoin d'une femme à la ferme. Une femme qui fasse marcher le ménage, qui fasse la cuisine, qui fasse enfin ce que fait une fermière. J'ai eu du malheur jusqu'ici. Je ne peux pas tomber sur une femme honnête, active, intelligente, qui prenne mes intérêts et qui sache mener une ferme. J'avais bien pensé à vous, mais je me disais, elle a un grand garçon de 24 ans, elle a pour le moins 41 à 42 ans, c'est trop âgé pour commencer. Et voilà que vous en avez 33, mais c'est superbe. Tiens, c'est le bon Dieu qui exauce votre prière. Vous lui demandez de me donner du bonheur. Suis-je donc heureux? Ah, je ne vais plus avoir à méfier, à surveiller, à gronder. Tout ira comme sur des roulettes. Quand je serai malade, vous me soignerez. Quand je serai absent, vous prendrez la direction de tout.
Mais monsieur, vous arrangez tout ça sans savoir si je puis faire l'affaire, si je connais le travail d'une ferme, si je sais traire une vache, élever des volailles. Une femme de ferme doit savoir tout cela à fond.
Ah, c'est vrai pourtant. Et vous ne savez pas? Dites vite.
Si fait, monsieur, je sais. Je suis fille de fermier. J'ai travaillé à la ferme depuis que je me souviens de moi-même. Je n'ai quitté qu'à la mort de mon père et de mon mari.
Alors pourquoi diable m'effrayez-vous? Je ne vous demande pas si vous voulez, puisque vous pouvez. Du moment qu'il s'agit de me rendre service, vous n'hésiterez pas, j'en suis sûr. Quand faut-il vous envoyer une charrette pour déménager?
Quand vous voudrez, monsieur. Rien ne me retient ici. Vous avez pensé juste, en étant si sûr de mon consentement. Tout ce que je pourrais faire pour vous, je le ferai avec bonheur, en remerciant le bon Dieu de m'offrir les moyens de vous témoigner ma reconnaissance.
Bah, la semaine prochaine, alors. Nous sommes à jeudi, aujourd'hui. Lundi prochain, vous déménagez.
Je serai prête, monsieur.
Bien. Tout est convenu, je suis content. Je ne vous parle pas de gages, de paye. Il vous passera assez d'argent dans les mains, plus que vous n'en pourriez dépenser. Vous prendrez ce qu'il vous faudra, ce que vous voudrez. Je n'ai pas besoin de vous fixer la somme et je ne crains pas que vous en preniez trop.
Et la petite Marie, monsieur, qu'en ferons-nous?
Eh bien, Marie viendra avec vous.
Ce sera peut-être un embarras pour vous, monsieur.
Embarras? Pas le moindre. Quand elle aura 21 ans, je l'adopterai et je la marierai à mon petit Jean. J'ai déjà fait mon plan, allez. Vous savez, je suis égoïste. J'arrange ma vie pour moi-même.
Et sans oublier les autres, monsieur. Mon Dieu, que c'est donc beau et bon d'être égoïste au point où vous l'êtes.
Mais oui, vous voyez, on se fait une bonne petite vie, on se fait des amis.
Bien dévoué et bien reconnaissant, monsieur.
Toujours. Les amis sont toujours dévoués et reconnaissants. Sans cela, ce ne sont plus des amis. Ah, ben et le dîner que nous oublions. Marie va rentrer et si je n'ai pas quelque chose à mettre dans mon pauvre estomac, je la mange à la crococelle. Hélène remit du bois dans le feu, tira de l'armoire aux provisions de quoi faire une omelette et de quoi assaisonner une salade. Quand les œufs furent battus et prêts à mettre sur le feu, Kersak lui offrit de tenir la poêle pendant qu'elle mettait le couvert. Ce fut bientôt fait, et au moment où Hélène versait l'omelette dans une assiette, la petite Marie arriva rouge et joyeuse. Elle courut à Kersak qui l'embrassa sur les deux joues. Elle lui rendit ses baisers en disant:
« J'ai été bien des jours sans vous voir, mon bon ami. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans venir?
Mais parce que c'est le temps de la moisson, ma petite Marie, et que dans ces temps-là, hommes et chevaux ont bien à faire.
Mais vous, bon ami, vous ne travaillez pas.
Tout comme les autres, et même plus que les autres. Pendant qu'ils se reposent, je vais voir de tous côtés si chacun est à son affaire, si l'ouvrage se fait comme il faut. Ah, je suis le premier levé et le dernier couché.
Mais c'est très fatigant, ça.
Sans doute c'est fatigant. Mais tant qu'on vit dans ce monde, il faut se fatiguer pour faire son devoir.
Et si l'on ne veut pas se fatiguer?
Oh, si l'on ne veut pas se fatiguer, on est un lâche et un méchant, parce qu'on offense le bon Dieu. On mécontente les hommes et on est puni dans ce monde et dans l'autre monde.
Comment est-on puni?
Dans ce monde, personne ne vous aime, ne vous estime et ne veut de vous. On ne gagne plus rien et on devient misérable. Et dans l'autre monde, le bon Dieu vous renvoie au diable qui est très méchant et qui vous rend malheureux. Mais malheureux, comme tu ne peux pas te figurer.
Comme vous faites bien alors de vous fatiguer, bon ami. Mais tâchez de vous fatiguer beaucoup, assez pour que le bon Dieu soit content et qu'il ne vous envoie pas ce méchant diable.
Oh, je me fatigue assez, sois tranquille.
Monsieur Kersak, Marie va croire qu'il suffit de se fatiguer pour contenter le bon Dieu. Il faut d'autres choses encore.
Oh, comment donc, certainement. Écoute, Marie, il faut aussi beaucoup aimer le bon Dieu.
Je l'aime bien aussi, mais je ne le vois pas. Alors je ne peux l'aimer comme ceux que je connais.
Si fait, tu le connais. Tu sais que c'est le bon Dieu qui t'a créé, qui te donne tout ce que tu as.
Je le sais bien, mais je ne vois pas les choses qu'il me donne. Pas comme vous, qui me soignez et qui me donnez beaucoup de choses que je vois. Aussi, je vous aime de tout mon cœur.
Dites donc, Hélène. Entendez-vous ce qu'elle dit? Je crains qu'elle ne soit plus forte que moi. Je suis à bout de raisonnement. Faites-lui comprendre que je ne vaux pas le bon Dieu.
Marie, c'est le bon Dieu qui m'a fait venir à ton secours quand ta bonne t'a abandonnée. C'est le bon Dieu qui te fait vivre, qui a permis que le bon monsieur Kersak te connaisse et t'aime. C'est le bon Dieu qui te garde et te protège jour et nuit. Il t'aime, il veut que tu sois heureuse toujours. Tu vois bien que tu dois l'aimer plus que tout le monde. C'est vrai, mère, c'est vrai. Je l'aime et je l'aimerai plus encore, je vous le promets.
Et moi, Marie, comment m'aimeras-tu assez pour m'empêcher d'être jaloux?
Vous? Oh, vous savez que je vous aime bien, que je vous aimerai toujours. Plus que tout le monde, vous comprenez? Et puis, c'est vilain d'être jaloux. Et ne vous ferez jamais rien de vilain.
Mais le déjeuner était prêt. Ils se mirent à table. Kersak rit longtemps encore de la promesse de sa fille adoptive et mangea comme un homme qui vient de faire 7 lieues, 28 kilomètres, et qui est encore à jeun à 1h de l'après-midi. Marie dévorait. Le gigot était cuit à point, l'omelette était excellente, la salade était bien assaisonnée, le beurre était frais, le pain était tendre, les convives étaient heureux. Kersak était particulièrement enchanté de s'être assuré une femme sûre et intelligente à sa ferme et de trouver en elle et en la petite Marie une société et une distraction agréables. Quand Marie sut qu'elle allait demeurer à la ferme de Kersak, elle ne se posséda plus de joie.
« Partons tout de suite, mon bon ami, emmenez-nous tout de suite, emmenez-nous tout de suite. »« C'est impossible, Marie, il me faut le temps de payer les petites choses que je dois, de faire mes adieux à monsieur le curé, à ma sœur Marine, de ranger mes effets. Car j'ai des effets maintenant, et je ne veux rien laisser de ce que vous m'avez donné, monsieur Kersak. »«
Oh, vous emporterez tout ce que vous voudrez, Hélène. Je vous enverrai ma plus grande charrette. »«
Merci, monsieur. Je laisserai la maison à ma sœur, qui n'aura plus de loyer à payer de cette façon. »
Kersak avait fini de dîner. Il se leva pour aller atteler son cheval. Hélène l'accompagna, et il partit en répétant à lundi. Chapitre 18. Monsieur Abel cherche à placer Jean. Hélène attendit au soir pour écrire à son petit Jean et lui annoncer l'heureux changement qui se faisait dans sa vie. Après avoir raconté ce que nous venons de lire, elle ajouta « Tu vois, mon enfant, que je ne vais manquer de rien. Le bon monsieur Kersak me paye tout mon entretien et je n'abuserai pas de sa trop grande bonté. Il prend la petite Marie à sa charge. Il ne sera donc plus besoin que vous vous priviez, Simon et toi, pour me venir en aide. Gardez ce que vous gagnez, mes bons enfants. J'ai reçu plus de 800 francs depuis ton départ, mon petit Jean. » 800 francs de ce moment-là, ça fait 16 000 francs de maintenant. « C'est trop pour vous, chers enfants. Il faut songer à votre avenir. Pour moi, j'ai payé toutes les petites dettes qu'on ne me réclamait pas, mais que je savais devoir depuis 5 ans, du temps de ton pauvre père. J'ai fini de payer le médecin il y a 3 jours avec les 60 francs de gratification que vous aviez reçus et que vous m'avez envoyé tout d'un bloc. Quant à ma vie, elle ne me coûte pour ainsi dire rien grâce aux bontés de M. Kersak qui m'apporte tous les 15 jours des provisions pour la quinzaine. Il est bien bon, mes enfants. Priez pour lui afin que le bon Dieu le bénisse et le récompense de ce qu'il fait pour moi. Je pars lundi pour Sainte-Anne et je crois que j'y serai heureuse. C'est là qu'il faudra m'écrire. » Lorsque Simon et Jean reçurent cette lettre, ils furent plus heureux encore que ne l'était leur mère. Ils bénirent le bon Kersak, et Jean lui écrivit le soir même une lettre pleine de reconnaissance et d'affection. « Simon, dit Jean, une chose qui me revient dans la lettre de maman, c'est ce qu'elle dit des 800 francs qu'elle a reçus et des 60 francs de gratification. De quelle gratification veut-elle parler? En as-tu reçu une de Monsieur Métis ?» Pas la moindre, dit Simon. Ce n'est pas son genre, tu sais. Il est bien bon pour nous. Il nous donne des permissions. Il nous permet, par exemple, d'aller souvent le soir chez M. Amédée. Mais quant à donner de l'argent, ça n'est pas son habitude. Et les 800 francs, dit Jean, avons-nous envoyé tant que ça? Non, certainement non, dit Simon. Mais c'est facile à voir, j'ai tout écrit à mesure. Simon regarda sur son livre, fit son total et trouva 420 francs. « C'est singulier, dit Simon. D'abord, comment aurions-nous pu envoyer en 2 ans 800 francs puisque j'en reçois 400 et toi 200? Et nous avons à payer notre entretien, notre blanchissage, les vêtements et les chaussures. Je n'y comprends rien. » « Je crois que je comprends, moi, dit Jean. C'est notre bon monsieur Abel. Ce doit être lui. Ceci, par exemple, c'est d'une bonté qui dépasse tout ce qu'il a fait. Y penser, envoyer comme si c'était de notre part et par petites sommes pour qu'on ne le devine pas. Mon Dieu qu'il est bon, que je l'aime, que je le bénis. Et de penser que je ne puis rien faire pour lui montrer ma reconnaissance. Je ne puis même pas lui dire... comme je le voudrais. Je n'oserais pas l'embrasser, lui baiser les mains. Quoi qu'il soit bien bon, je n'ose pas. Ce que tu peux faire, mon ami, dit Simon, c'est de prier pour lui, plus encore que tu ne l'as fait jusqu'ici. Oh, je le ferai de mon mieux, Simon. Mais c'est si peu de choses. Le lendemain, lorsque Jean servit le déjeuner de M. Abel, celui-ci lui trouva un air tout embarrassé.
« Qu'y a-t-il, mon enfant ?» lui dit M. Abel. « Tu n'as pas ton air gai et riant aujourd'hui. T'arriverait-il quelque contrariété ?»«
Au contraire, monsieur, dit Jean, et c'est ce qui me gêne.
Bah, »« Qu'est-ce que tu dis donc ? Depuis quand le bonheur donne-t-il de la gêne ?»«
Ce n'est pas précisément le bonheur, monsieur. C'est d'être obligé de le garder pour moi. »
« Pourquoi le gardes-tu, Nigo? Pourquoi ne me le dis-tu pas ?»«
Oh, vous permettez, monsieur ?»«
Mais si je le permets, tu sais que nous sommes une paire d'amis et que nous nous disons tous nos secrets. »«
Pas vous, monsieur, pas vous. Et la preuve, c'est que mon secret vous regarde. » Monsieur Abel regarda Jean avec surprise. « Oui, monsieur, continua Jean, c'est de vous qu'il vient, et vous me l'avez caché. Et ce qui me gêne, c'est de ne pas pouvoir vous dire tout ce que j'éprouve pour vous d'affection et de reconnaissance depuis que je sais comme vous avez soigné ma pauvre maman. Oui, oui, monsieur, vous n'avez pas besoin de faire l'étonné. Vous lui avez envoyé, comme venant de Simon et de moi, depuis plus de 2 ans, et par petite somme, plus de 400 francs. Tout se découvre, vous voyez bien, monsieur, tout, excepté mes sentiments qui remplissent le cœur de ceux qu'on a obligés et qui ne savent comment les exprimer. Monsieur Abel sourit et tendit la main à Jean, qui la couvrit de baisers et qui reprit toute sa gaieté et son entrain quand M. Abel l'eut assuré qu'il comprenait ses sentiments.
« Je t'assure, mon enfant, que je vois dans ton cœur comme dans le mien et je suis très content de ce que j'y vois. »«
Alors, monsieur, je n'ai plus besoin de parler pour que vous deviniez. »«
Non, non, tes yeux parlent assez clair. Un regard de toi et je devine tout. »« Mais j'ai à te parler, Jean. » Voilà Simon qui va bientôt se marier. Il n'est plus seul déjà, puisqu'il va presque tous les soirs chez Mademoiselle Aimée. Je crois bien que le père va faire le mariage au printemps prochain, dans quelques mois d'ici. Une fois Simon marié et établi chez son beau-père, qui l'aidera dans son commerce, je ne veux pas que tu restes ici. Tes camarades ne sont pas bons. Ils chercheraient à te mener à mal, et tu n'aurais peut-être pas la force de résister. Tu perdrais tes habitudes chrétiennes, tes bons sentiments, ce qui me causerait un vif chagrin.
Oh, monsieur, que puis-je faire pour vous épargner cette inquiétude? Quant au chagrin, j'espère, avec l'aide du bon Dieu, ne jamais vous en donner. Mais faites de moi ce que vous voulez, monsieur, je vous obéirai en tout.
Je te remercie, mon enfant. Voilà donc mon idée. Je te retirerai d'ici et je te placerai comme domestique chez des amis très chrétiens, très bons. Le mari et la femme sont très pieux, leurs enfants sont bien élevés et charmantes. C'est une famille excellente, charitable, quoique riche, et c'est là que je voudrais te faire entrer. Tu serais second domestique sous les ordres d'un homme excellent qui ne te rendrait pas la vie dure. Et ton emploi principal serait de soigner et de distraire le pauvre petit garçon de 10 ans qui est un vrai petit saint. Il est couché depuis plus d'un an et il souffre sans cesse et jamais il ne se plaint, jamais il ne s'impatiente. Il est réellement touchant et attachant.
Merci, monsieur, merci. Voyez, je ne dis plus rien, je vous regarde. Monsieur Abel se mit à rire, donna une petite tape amicale sur la joue de Jean et se leva de table.
Je vais m'occuper de toi. Je te donnerai réponse définitive demain.
Jean courut raconter à Simon ce que lui avait dit Monsieur Abel. Simon partagea la satisfaction de son frère. Puisque je dois quitter le café, dit Simon, je suis content que tu en sortes aussi et que notre bon monsieur Abel se charge de te placer. » Il finissait à peine de parler que Jeannot entra dans le café et alla droit à Simon.
« Je viens te demander un service, Simon, » dit-il d'un ton fort décidé.
« Lequel? Que veux-tu?
Je te demande de me chercher une place. Je quitte décidément l'épicerie. « Je veux me mettre en maison. »«
Je connais peu de monde, » dit Simon, « et toute ma journée est occupée à servir les allants et venants. Je n'ai donc pas le temps de te chercher une place. »«
Demande à M. Métis de me prendre. » »«
M. Métis cherche ses garçons lui-même. Il n'aime pas qu'on s'en mêle. »«
Tu es bien aimable. Je te remercie de ton obligeance. »
Simon ne répondit pas.
« Je vois ce que c'est. Tu ne veux pas me recommander. »«
C'est possible, » dit Simon. « Je ne recommande que ceux que je connais. Et toi, je ne te connais plus. Tu ne viens plus nous voir.
»« C'est ce gueux de Potois qui t'a dit du mal de moi. »«
C'est possible. Et d'après la manière dont tu parles de ton patron, il n'aurait pas tort. »«
Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? »
Je n'ai pas besoin de te le raconter. Et tu n'as pas besoin de le savoir.
Je veux le savoir et tu me le diras.
Je ne te le dirai pas et tu ne le sauras pas.
Prends garde à toi. Je pourrais te faire du mal.
Oh, fais ce que tu voudras et va-t'en.
Si jamais je te rencontre sur mon chemin et que je puisse te barrer le passage à toi et à ton Jean, je ne vous manquerai pas.
Méchant drôle, dit Simon, avise-toi de toucher à Jean et je te ferai empoigner par la police.
Je ne la crains pas, ta police. Une dernière fois, je te demande, veux-tu me recommander pour une place de domestique?
Non, non. Je t'ai déjà dit non, et je te répète non, et va-t'en. Jeannot se retira lentement en menaçant du poing.
Mon bon Simon, dit Jean, pardonne-lui, il était hors de lui. Je suis sûr qu'il regrette déjà de t'avoir parlé si rudement.
Oh, non, mon ami, dit Simon, il ne le regrette pas. Et il ne regrettera sa mauvaise conduite que lorsqu'il sera trop tard. Pontois m'a encore parlé de lui dernièrement. Et d'après ce qu'il m'a dit, Jeannot est perdu.
Mon Dieu, dit le bon petit Jean. Pauvre Jeannot, peut-être qu'en le mettant dans une bonne maison, bien pieuse et bien honnête, il redeviendrait bon.
Je ne le crois pas, Jean, dit Simon, et en tout cas, je ne peux pas le recommander comme un garçon honnête et rangé.
Jean ne dit plus rien, mais il forma un projet. Chapitre 19. Monsieur Abel place Jeannot. Le lendemain, Jean attendit avec impatience Monsieur Abel. Dès qu'il l'aperçut, il courut à lui.
J'ai à vous parler, monsieur, dit Jean, d'une chose très importante. Mais n'en dites rien, c'est un secret.
Ah ah, tu as un secret. Je serai muet comme la tombe. Tu peux me dire tout ce que tu voudras.
Bien, monsieur. Vous voyez, je vous regarde et puis je cours vous chercher votre déjeuner.
Ce bon garçon, se dit Abel en souriant. Il n'oublie jamais la reconnaissance qu'il croit me devoir. Et qu'il me doit, au fait, car je lui ai fait du bien, tout en me faisant plaisir, et du bien à l'âme.
Jean revint, apportant un beefsteak aux pommes, tout fumant, bien cuit à point, un petit pain mollet et une bouteille de vin de premier choix.
Là, mangez, monsieur. Pendant que vous déjeunerez, je vais vous raconter quelque chose et je vous demanderai un service, un très grand service.
Parle, mon ami, je t'écoute.
Jean lui raconta ce qui s'était passé la veille et finit par lui demander instamment de placer Jeannot.
Mais mon ami, je trouve que Jeannot s'est très mal conduit avec Simon et qu'il ne mérite pas du tout mon intérêt ni le tien.
Cher monsieur Abel, pensez donc que monsieur Pontois va le renvoyer et que ce malheureux Jeannot mourra de faim et de froid. Car voici l'hiver qui approche.
C'est vrai, mais comment veux-tu que je recommande ce garçon que je ne voudrais pas pour moi-même?
Oh, monsieur, vous avez été pour Simon et pour moi si bon, que si je ne craignais pas de vous fâcher, je dirais, ce que je pense au reste, qu'il n'y a pas de saint meilleur que vous. Et vous seriez méchant pour Jeannot? C'est impossible. Mon cher, mon bon bienfaiteur, ayez pitié de lui, pardonnez-lui, sauvez-le.
Fin de la première piste de la cinquième cassette, Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur, page 147.